Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre nouvelle série concernant la sainteté. En effet, il est de notre devoir d'aspirer à la sainteté. Nous arrivons donc au numéro 2 et le thème sera un thème très court, le but de la rédemption. Chers amis, pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé? En y réfléchissant, ce n'est pas une si mauvaise question. Après tout, vous étiez mort par vos offenses et vos péchés. J'étais mort par mes offenses et mes péchés. Éphésiens chapitre 2, verset 1. En tant que descendant d'Adam, le premier homme, vous êtes aussi coupable et aussi corrompu que lui après qu'il ait commis le premier péché. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. N'oubliez pas de noter ces indications bibliques. Vous étiez donc ennemi de Dieu en quelque sorte. Verset 10. Vous êtes en plus des pécheurs nés dans l'iniquité, nous est-il dit dans le psaume 51, verset 7, destiné par votre nature à sa colère, à la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Et vous avez compris, j'y suis incompris dans tout cela, y compris plutôt. Pas incompris, car ça me concerne aussi, autant que pour vous. Chers amis, vous pratiquiez le péché et vous méritiez la mort, selon Romains chapitre 6, verset 23. Et je répète, moi y compris. Toutefois, voici la bonne nouvelle pour tous les chrétiens qui écoutaient ce CD, ou ces CD. La Sainte Bible dit que Jésus-Christ est mort à votre place. Chapitre 5, verset 8. Le bon berger a donc donné sa vie pour ses brebis. Saint Jean chapitre 10, verset 15. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu qui vous était destinée. Notez Saint Marc chapitre 10, verset 45. Sa mort sur la croix, cela signifie que Dieu est maintenant pour vous et non pas contre vous. Notez Romains, chapitre 3, verset 25, et chapitre 8, verset 31, jusqu'au verset 39. Donc, par la foi, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vous êtes maintenant réconciliés. Vous êtes maintenant justifié et adopté par Dieu. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alléluia. Mais pourquoi tout cela? Vous avez peut-être réfléchi au comment, c'est-à-dire à la manière dont Dieu vous a sauvé ou au quoi. Ou au quoi? À savoir, ce que vous devez faire pour être sauvé, ou même au moment où vous avez été sauvé, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous a vraiment sauvé? Eh bien, il y a plusieurs bonnes réponses à cette question. La Sainte Bible révèle que Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Ça, c'est Saint Jean chapitre 3, verset 16. La Sainte Bible déclare également que Dieu nous a sauvés pour la gloire de son saint nom. Éphésiens chapitre 1, verset 6, verset 12 et verset 14. Ce sont donc deux des meilleures réponses à notre pourquoi. Or, ce n'est pas tout. Il y a une autre réponse tout aussi bonne, tout aussi biblique et tout aussi importante. C'est que Dieu vous a sauvé afin que vous soyez saints. Dieu vous a sauvé afin que vous soyez saints. S'il vous plaît, prêtez attention au but mentionné dans ce passage tiré de l'Épître aux Éphésiens. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus déjà avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochable devant lui. Notez Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Je répète, en lui, en Jésus, son Fils bien-aimé, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a choisis dans l'éternité passée. Incroyable, vraiment incroyable. Il a donc envoyé Jésus-Christ à un point précis de l'histoire pour nous sauver et nous faire don de la foi par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et ceci afin que nous soyons saints. Remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas que la vie parfaite de Jésus est considérée comme étant nôtre au moment même où nous plaçons notre foi en lui. J'élaborerai donc ce sujet un peu plus tard, mais tout d'abord, je veux que vous reteniez ceci. Notez Éphésiens chapitre 1, verset 4, et beaucoup d'autres passages semblables qui attirent l'attention sur la sainteté personnelle qui doit caractériser la vie du croyant aujourd'hui et à jamais. Ça, c'est des choses qui sont très rarement prêchées dans nos églises actuellement. Donc, je répète, et il y a beaucoup d'autres passages qui sont semblables à Éphésiens chapitre 1, verset 4, et qui attirent l'attention sur la sainteté personnelle qui doit caractériser la vie du croyant aujourd'hui et à jamais. L'apôtre Paul nous incite à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir le nouveau. Chapitre 4, versets 22 à 24. Il veut que nous soyons sanctifiés, que nous soyons lavés par l'eau de la Sainte Parole. Chapitre 5, versets 26 On est dans Éphésiens. Lorsque Dieu nous sauve par la justice de Jésus-Christ, il nous sauve pour que nous devenions justes. Pour que nous devenions justes comme lui. Ige Parker, un grand érudit de Dieu, il exprime ainsi. Il dit, en réalité, la sainteté est le but de notre rédemption. En réalité, la sainteté est le but de notre rédemption. Tout comme Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous soyons justifiés, nous sommes justifiés afin d'être sanctifiés et de devenir saints. Oh là là, c'est sérieux tout cela. Bien sûr qu'il y a d'autres choses. Et ne l'oublions jamais, le Seigneur nous a aussi sauvés pour devenir ses disciples. Alléluia. Il est dit, sauvés pour le servir. Sauvés pour servir. C'était le slogan du fondateur de l'armée du salut, William Booth. Donc, la sainteté a été le plan de Dieu pour son peuple, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Du reste, l'Éternel Dieu a dit, Yahvé l'Éternel, dans Exode, chapitre 19, versets 4 à 6, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez donc pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. Voyez-vous, maintenant, avez-vous compris pourquoi nous avons été délivrés? Dieu a sauvé les Israélites pour la sainteté. Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte afin qu'ils puissent marcher librement dans ses voies. Les Israélites devaient donc être un peuple si distinct des autres, si sanctifié et si saint, que chacun d'entre eux aurait pu être sacrificateur. Chaque chrétien de chaque église se doit donc de vivre de la même manière, selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, sont prisonniers. Ça, c'est l'apôtre Paul. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donné en Jésus-Christ, et cela avant les temps éternels. Notez 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car il est dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et il est aussi dit que les maris, maris que chacun aime sa femme, comme Jésus-Christ a aimé l'Église, et comme il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui vient de moi, mais j'ai dû piocher comme une sainte sœur en Christ m'a fait comprendre. J'ai dû y piocher. Donc, la Sainte Bible ne saurait être plus claire. La raison pour laquelle vous avez été sauvés, et ça, c'est le but pour lequel Dieu vous a vraiment choisi, c'est pour la sainteté. Chers amis, la sainteté est non seulement l'objectif de votre rédemption, elle est aussi nécessaire à votre rédemption. Nous ferions bien de jeter un coup d'œil à ce que nous dit la Sainte Bible. Jésus a dit lui-même que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui et celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu chapitre 7, verset 21. Il est donc possible de professer la vérité sans être vraiment, vraiment sauvé. Donc, seuls ceux qui font la volonté du Père entreront dans le royaume. Ainsi, nous devons écouter les paroles de Jésus et les mettre en pratique, si possible. Verset 26. Plusieurs passages, comme 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 et le verset 10, enseignent que les injustes n'hériteront, hélas, point le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On retrouve cette même idée dans Galates, chapitre 5, verset 19, jusqu'au verset 21. La sainte parole de Dieu enseigne à maintes reprises, à plusieurs reprises, que ceux dont la vie est caractérisée par l'impiété, par tout ce qui concerne l'impiété, n'iront, hélas, jamais au ciel. Et oui, c'est triste, mais c'est ainsi. Les preuves que la grâce de Dieu a abondé en nous doivent jaillir de notre vie pour que Dieu nous donne son approbation lors du jugement dernier. Plus particulièrement, la première épître de Saint Jean, elle souligne plusieurs critères qui déterminent si nous appartenons ou non à Dieu notre Père. Non seulement ceux qui sont nés de nouveau s'afficheront publiquement pour le Fils, nous est-il dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 23, et chapitre 4, verset 15. Et ils croiront, que Jésus est vraiment le Christ, le Messie. Chapitre 5, verset 1. Mais ils garderont aussi les commandements de Dieu. Chapitre 2, verset 3 et 4. Ils suivront les traces de Jésus. Chapitre 2, verset 5 et 6. Ensuite, ils pratiqueront la justice, nous est-il dit, au chapitre 2, verset 29. Je crois que nous parlons de la première épître de Saint Jean. Et ils triompheront du monde. Chapitre 5, verset 4. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas, ne peut donc pas le toucher, l'ennuyer, le tracasser, faire qu'il ait un burn-out. Chapitre 5, verset 18. De même, le livre de Jacques précise que la foi sans les œuvres qui l'accompagnent, ne sauve pas vraiment. Jacques, chapitre 2, verset 14. Il en est donc ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 17 de Jacques, chapitre 2, mais évidemment. Beaucoup de chrétiens ont du mal à concilier l'accent qui est mis sur les œuvres dans l'épître de Jacques avec les écrits de Saint Paul, l'apôtre Paul, sur la foi sans les œuvres. Toutefois, il n'y a pas de réel conflit entre les deux. L'apôtre Paul veut que nous voyons la foi comme étant l'instrument de notre justification devant Dieu. Rien d'autre ne contribue à notre salut. Tout ce qui compte est la justice de Jésus-Christ. En revanche, Jacques, il veut que nous comprenions que des preuves de sainteté doivent accompagner une foi qui est sincère. Je répète, Jacques veut, il désire, que nous puissions comprendre que des preuves de sainteté doivent ou devraient accompagner une foi qui est sincère. Nous sommes donc justifiés par la foi seule, mais cette foi justificatrice, elle n'est jamais seule. L'apôtre Paul décrit une foi il décrit qu'une foi qui est sincère et vivante, c'est ce qu'il dit. La foi, notre foi, doit être sincère et vivante. Et Jacques se lève contre une foi qui serait mensongère, qui n'est rien d'autre qu'un assentiment avec notre cerveau sans aucune vie spirituelle. Verset 17, verset 19, verset 20 et le verset 26 de Jacques chapitre 2. Ensuite, il y a Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, la sainteté n'est donc pas facultative. Certains d'entre vous pensent, oui, tout ça, c'est tout à fait vrai. Nous devons être saints. Et nous le sommes à cause de Christ. C'est vrai aussi. En effet, ailleurs dans la lettre aux Hébreux, nous voyons que la sainteté qui est appelée par certains théologiens la sanctification définitive, la sanctification définitive, ça c'est un don qui est reçu avec l'Évangile. Chapitre 10, versets 10 et 14. Toutefois, Hébreux 12 traite de notre part, de travail qui est liée, elle est liée à cette sainteté positionnelle. Alors je répète parce que j'ai mal dit la phrase. Toutefois, Hébreux chapitre 12 traite de notre part de travail lié à cette sainteté positionnelle. Donc, écoutez la suite. La sainteté dans Hébreux chapitre 12 verset 14, cette sainteté n'est pas une sainteté qui est reçue comme ça, mais c'est une sainteté que nous nous efforçons d'atteindre. Je répète, la sainteté dans Hébreux chapitre 12 verset 14, ce n'est pas une sainteté qui est simplement reçue, mais c'est une sainteté que nous nous efforçons, que nous essayons de tout faire pour l'atteindre. Cela a donc du sens, compte tenu du contexte de la discipline de la première moitié du chapitre 12. Les Hébreux, qui se disaient chrétiens, étaient persécutés pour leur foi et ils couraient le danger d'un naufrage spirituel. Chapitre 10, verset 39. Et c'est alors que Dieu le Père les a châtiés afin de produire en eux un fruit de justice. Chapitre 12, verset 11. Dieu a donc l'intention de rendre ses enfants saints. Car la sainteté doit caractériser tous ceux qui sont en relation avec un Dieu saint. Croyez-moi, ceci n'est pas prêché tous les dimanches matins. Il y a donc littéralement des centaines de versets comme ceux-là. En 1990, John Piper, que j'ai déjà nommé, ça vient donc pas de moi, un célèbre serviteur de Dieu, il a écrit une longue lettre que tout le monde devrait lire. Cette lettre s'intitule « Lettre à un ami concernant le soi-disant salut par obéissance ». À l'époque, il y avait un grand débat à savoir si Jésus-Christ pouvait être notre sauveur sans être notre Seigneur. Alors John MacArthur, un autre grand érudit de Dieu, a écrit l'Évangile selon Jésus pour aider les gens à comprendre que la seule façon de réellement suivre Jésus, c'est de le considérer comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. John Piper a écrit la lettre à un ami. À la fin de ce livre se trouve un appendice dans lequel figurent les textes qui montrent la nécessité d'avoir Jésus-Christ, pas seulement pour notre Sauveur, mais comme Seigneur, et ceci pour hériter de la vie éternelle. La liste est longue. Et John Piper mentionne 6 passages qui parlent de la nécessité de faire le bien, 13 passages sur la nécessité d'obéir, 2 sur la nécessité d'être saint, et encore 2 sur la nécessité de pardonner aux autres. Ensuite, 4 passages sur la nécessité de ne pas vivre selon la chair, 2 sur la nécessité d'être libre de l'amour de l'argent, 14 sur la nécessité d'aimer Jésus-Christ et Dieu, et 6 sur la nécessité d'aimer les autres. Il y a donc des douzaines d'autres versets sur la nécessité d'aimer la vérité, de ressembler tout simplement à un petit enfant, de tenir sa langue en bride. Oh là là, Seigneur, aide-moi. De persévérer, de marcher dans la lumière, de se repentir et de combattre le bon combat. En d'autres mots, l'enfant de Dieu doit être saint. Je répète, en d'autres mots, tout ce que je viens de mentionner, l'enfant de Dieu doit ou devrait absolument être saint. pour s'assurer que ce soit clair, l'insistance sur la nécessité de la sainteté ne devrait en aucun cas ébranler la confiance en la justification par la foi seule. Je répète, pour s'assurer que ce soit bien clair, l'insistance sur la nécessité de la sainteté ne devrait en aucun cas ébranler la confiance en la justification par la foi seule. Les meilleurs théologiens et les meilleures déclarations théologiques ont toujours souligné la nature scandaleuse de la grâce illimitée de l'Évangile, ainsi que l'indispensable besoin de la sainteté. La foi et les bonnes œuvres sont toutes deux absolument nécessaires. L'une est la racine et l'autre c'est le fruit. Dieu nous a déclarés justes uniquement grâce à la justice de Jésus-Christ qui nous est crédité, qui nous est imputé, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je répète, Dieu nous déclare juste uniquement grâce à la justice de Jésus-Christ qui nous est crédité, imputé, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Aux yeux de Dieu, notre innocence ne dépend absolument pas de gestes d'amour ou de bonnes actions. À la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» un catholique pourrait répondre « Repens-toi et crois et vis dans la charité. » Or l'apôtre Paul, il répond à la même question en disant « Repens-toi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes, chapitre 16, verset 31. Toutefois, il y a autre chose que nous devons savoir au sujet de la foi. La foi qui vous unit à Christ, qui vous unit au Messie et vous rend juste devant Dieu, c'est une foi agissante par l'amour. Galates, chapitre 5, verset 6. Au dernier jour, Dieu ne nous acquittera pas parce que nos bonnes œuvres étaient suffisamment bonnes, il cherchera plutôt la preuve que notre profession de foi était vraiment sincère. C'est donc dans ce sens-là que nous devons être saints. Le fait d'insister sur la sainteté personnelle n'a rien d'anti-protestant. Par exemple, la Confessio Belgica de 1561 la confession belgique a dit « Nous ne basons pas notre foi sur les bonnes œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres. » Elle dit aussi « Il est impossible à cette foi sainte de ne produire aucun fruit dans la vie d'une personne, étant donné que nous ne parlons pas d'une foi vide, mais de ce que l'Écriture sainte appelle la foi agissante par l'amour. De même, le catéchisme de Heidelberg de 1563 enseigne que seule une foi sincère en Jésus-Christ peut nous rendre justes devant Dieu. Je répète, l'Écriture sainte appelle la foi agissante par l'amour. De même, le catéchisme de Heidelberg de 1563 enseigne que seule une foi sincère en Jésus-Christ peut vraiment nous rendre justes devant Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est donc accepter le don de Dieu par la foi. Pourtant, c'est sans hésitation que est soulignée la nécessité de la sainteté. Ceux qui ne montrent aucune gratitude et qui ne se repentent pas en se tournant vers Dieu, peuvent-ils vraiment être sauvés? Hélas, non. Niet. La Sainte Parole nous révèle que ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni leurs semblables n'hériteront le royaume de Dieu. Les déclarations comme celle-ci pourrait être multiple simplement en observant à peu près toutes les déclarations doctrinales officielles qui ont suivi la réforme. Enfin, il vaut la peine de répéter que Dieu est vraiment celui qui travaille en nous, créant en nous le désir d'obéir et nous donnant la capacité de le faire. Je répète, il vaut la peine de répéter que Dieu est vraiment celui qui travaille en nous par le Saint-Esprit, créant en nous le désir d'obéir et nous donnons la capacité de le faire. Nous ne méritons rien. Nous hériterons de tout. N'ayons aucune crainte en pratiquant la justice de la Sainte Bible. Cette justice aux couleurs flamboyantes que nous avons tendance à pâlir. Nous allons terminer notre étude d'aujourd'hui. Rappelez-vous, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, verset 10. Tout évangile prétendant sauver les gens sans les transformer. C'est une invitation à emprunter la voie de la facilité. Si vous croyez que être un chrétien n'est rien de plus que réciter une prière ou devenir un membre d'une église, vous avez confondu la véritable grâce avec une grâce bon marché, car ceux qui sont justifiés seront aussi sanctifiés. Alléluia. Il est donc hors de question de rejeter ou de mettre en doute ce que Dieu dit. Le message de la Sainte Bible est très clair sur toute la ligne. Nous devons être saints et nous sommes sauvés pour le devenir même si c'est progressivement. Et nous devons donc être saints pour hériter de la vie éternelle. Amen. Chers amis, nous continuerons notre très importante étude demain matin, Dieu voulant. Pour l'instant, j'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous encourager et aussi pour votre édification personnelle. Écoutez bien. La gloire de l'homme de bien est le témoignage de sa conscience. Ayez la conscience pure et vous posséderez toujours la joie. La bonne conscience peut supporter beaucoup de choses et elle est pleine de joie dans les adversités. La mauvaise conscience est toujours inquiète et troublée. Vous jouirez d'un repos ravissant si votre cœur ne vous reproche rien. Ne vous réjouissez que d'avoir fait le bien. Les méchants n'ont jamais de véritable joie. Ils ne possèdent point la paix intérieure parce qu'il n'y a point de paix pour l'impie, dit le Seigneur. Et ils disent, aussi ils disent, nous sommes dans la paix. Les maux ne viendront pas sur nous. Et qui oserait nous nuire? Ne les croyez pas, car la colère de Dieu se lèvera soudain et leurs œuvres seront réduites à rien et leurs pensées périront. Se faire un sujet de gloire de la tribulation n'est pas difficile à celui qui aime, car se glorifier ainsi, c'est se glorifier dans la croix de Jésus-Christ. La gloire que les hommes donnent et reçoivent est courte. La tristesse accompagne toujours la gloire du monde. La gloire des bons est dans leur conscience et non dans la bouche des hommes. L'allégresse des justes est de Dieu et en Dieu, et leur joie vient de la vérité. Celui qui désire la gloire véritable et éternelle dédaigne la gloire du temps. Et celui qui recherche la gloire du temps et ne la méprise, et ne la méprise pas de toute son âme, il montre qu'il aime peu la gloire éternelle. Il jouit d'une grande tranquillité de cœur, celui que n'émeut ni la louange ni le blâme. Il sera aisément en paix et content, celui dont la conscience est pure. Vous n'êtes pas plus saint parce qu'on vous loue, ni plus imparfait parce qu'on vous blâme. Vous êtes ce que vous êtes, et tout ce qu'on pourra dire ne vous fera pas plus grand, jamais plus grand, que vous ne l'êtes aux yeux de Dieu. Si vous considérez bien ce que vous êtes en vous-même, vous vous embarrasserez peu de ce que les hommes disent de vous. L'homme voit le visage, mais Dieu voit le cœur. L'homme regarde les actions, mais Dieu pèse l'intention. Faire toujours bien et s'estimer peu, ça c'est le signe d'une âme humble. Ne vouloir de consolation d'aucune créature, c'est la marque d'une grande pureté et d'une grande confiance intérieure. Quand on ne cherche au dehors aucun témoignage en sa faveur, il est manifeste qu'on s'est entièrement remis à Dieu. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, nous dit saint Paul, mais c'est celui que Dieu recommande. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Loué soit notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Ô Dieu, oui, viens à mon secours. Hâte-toi de me secourir. Que ma prière soit devant ta face comme une oblation de parfum, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme dès le commencement, aujourd'hui, pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et pour terminer, j'aimerais vous transmettre un ou deux chants d'un assez lointain passé, 1962, j'avais enregistré cela avec des appareils à bande, tels que le Revox, tels que le Nagra. Mais vous comprendrez bien que, avec tout ce temps-là, la qualité du son n'est plus la même. Et en plus, il peut y avoir des ratés. Alors je m'en excuse d'avance auprès de vous. Essayons si ça fonctionne. C'était, en ce temps-là, la plus grande chanteuse du gospel, Mahalia Jackson, qui faisait partie des églises baptistes des États-Unis. Mais avant, souvenez-vous que Dieu vous aime. Oh oui. Et il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse avec tout mon amour. Et je vous dis soyez bénis en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et maintenant, essayons si ça fonctionne.
Of my soul, I cry, Jesus, turn out, Jesus, turn out, Lord, lend a ear to my earnest plea, Jesus, draw nearer to me. Oh, if I ask for a thing that I should not ask for, if I pray for a thing selfishly. If I ask for myself and not for my neighbor, if this be from my right, let me see. Not my will, thou be done. Pray, Jesus. Be mine every day. If this robe of flesh that I'm wearing, Lord, makes me fall down, guide my feet, hallelujah, hold my hand. My love, you there when they crucify. Remember. tremble were you there when they crucified when they hung him to the cross, were you there? When they hung him to the cross, just tremble were you there when they hung him to the cross.